Mais d'abord, Madame Ravary, Lise, de son prénom.
Elle-même.
Est-ce que tu aimes les tomates?
J'adore les tomates. C'est comme tu disais tantôt, c'est le goût de l'été.
Ouais.
Mais pour éviter les problèmes que tu as avec tes tomates, moi, je fais pousser les miennes.
Ah, mais je suis d'accord. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure
solution. C'est la seule.
Mais
dans les supermarchés, là.
Je veux pas aller dans le détail, mais mettons qu'on a fait quelques expériences. Elles n'ont pas été toutes heureuses. Mais on apprend d'un été à l'autre. Alors, on espère que cet été, nos tomates vont... que la récolte de tomates sera plus généreuse.
Ben, c'est pas compliqué. T'as juste à les faire vacciner.
Non, de la bonne terre. De la bonne terre, bien engraissée.
Du soleil.
Oui, c'est ça. Très bien. Bon, alors, on va parler d'abord immigration. Hein, c'est ton premier sujet?
Oui, c'est mon premier sujet. J'ai vu, comme bien des gens dans les journaux, que la ministre de l'immigration au Québec, Nadine Giraud, s'apprêtait à baisser les standards, si on peut dire, pour les gens de connaissance du français pour les immigrants qui viennent au Québec. Évidemment, tu lis ça et tu fais « Ah, c'est la fin du monde! » Puis là, tu te mets à réfléchir un peu et je me suis dit, dans le fond, c'est pas si bête parce que ces gens-là viennent ici. On le sait que la première génération d'immigrants, c'est pas celle, à part évidemment, il y a toujours des exceptions, mais c'est pas celle là, qui va montrer là, l'attachement puis je suis québécoise puis qui va sortir son petit drapeau bleu à la Saint-Jean. Je pense que c'est demander un peu.
Ben de demander à quelqu'un d'un certain âge déjà d'apprendre une nouvelle langue, c'est pas toujours évident.
S'il y en a qui ont essayé. Moi j'ai essayé deux fois d'apprendre une langue adulte. J'ai jamais été capable.
Oui.
J'ai jamais été capable. C'est vraiment très dur. Puis quand on lance comme ça, un peu, tu sais, il y a juste à l'apprendre.
C'est plus
compliqué que ça.
C'est parce que les parents, quand ils arrivent, il faut qu'ils fassent vivre la famille. Il faut qu'ils aillent travailler. Et souvent, ils n'ont pas le temps de passer par les cours de francisation. Moi, je pense qu'on devrait trouver une manière quand même d'intégrer puis d'arrimer l'expérience du travail puis la nécessité de travailler pour gagner un salaire avec la francisation. Est-ce que ça devrait être sur les heures de travail? Est-ce que ça devrait être en conjonction avec l'entreprise qui a intérêt à ce que son employé, ses employés, maîtrise la langue pour
bien
être
sûr.
Pour bon. Alors, mais cela étant dit, revenons à la question que tu posais dès le départ. Toi, tu es en train de dire, ça a du bon sens de faire venir chez nous des gens qui ne maîtrisent pas le français, mais qui remplissent, qui comblent les postes disponibles, quitte à leur apprendre le français en deuxième lieu. C'est ça?
En fait, c'est oui, c'est ça, sauf pas juste quitte à leur, mais d'en faire une condition. Après, ils ont été acceptés, ils sont ici, ils travaillent dans leur, je sais pas moi, une entreprise de technologie où on a souvent besoin. Bon, et puis en plus d'ailleurs, ces gens-là, ils arrivent ici, non seulement il faut qu'ils parlent français, ça ils le savent, mais souvent ils découvrent que pour avoir un job, il faut qu'ils parlent anglais.
Oui. Ça, par moment, on exagère un peu sur ce plan-là. Moi, je trouve que c'est de demander systématiquement à tous les gens, souvent, de parler à la fois le français et l'anglais, hein, parce que c'est ça devient un critère d'embauche dans bien des emplois, là. Il faut que tu parles les deux langues. Dans certains cas, même, ils mettent l'anglais devant le français.
Ouais.
Moi, j'ai des inquiétudes par rapport à ça, parce que je crains qu'à un moment donné, on échappe la langue. Mais toi, tu y crois. Moi, je vais te dire le problème que j'ai avec cette logique-là, Lise, c'est que de dire t'en fais une condition, mais c'est parce qu'une fois que la personne est arrivée puis elle travaille, là, tu peux pas la. Je veux dire, tu vas pas la mettre à la porte, tu vas pas la retourner dans son pays d'origine parce qu'elle a pas appris le français comme elle s'est engagée à le faire. Tu comprends?
Ses enfants vont le parler parce que ce sont des enfants de la loi 101.
Oui, mais OK, mais c'est pas une condition à ce moment-là pour la faire émigrer.
Mais ils vont aller à l'école française, ils ont pas le choix. C'est vraiment la première génération où c'est plus compliqué à cause de l'âge, à cause des habitudes culturelles qui sont vraiment profondément ancrée. Ça, je peux le comprendre. Mais je vais te raconter une anecdote qui me fait peut-être penser que Madame Giraud s'en est peut-être inspirée hein, de cette affaire-là. C'est un monsieur de Limoges, en France, qui s'appelle Johan Flamand. Il a 39 ans. Il est camionneur de métier, un métier dont on a besoin présentement. Il a fait sa scolarité normale en France. Quand il est allé passer son test de français pour être accepté comme immigrant, il a échoué.
Oui, et alors?
Quelqu'un qui vient de la France, qui échoue son test, son truc de français.
Ok, toi tu dis que le système parfois est ridicule.
Ça c'est pas loin de Pasta Gate. Tu sais, le gars vient de Limoges en France. Il dit je baragouine à peine l'anglais. Donc c'est même pas l'anglais le problème, c'est quoi le problème?
Alors est-ce qu'il y a eu une explication qui nous a été donnée là-dessus d'ailleurs?
Non, les explications se font très rares. As-tu essayé d'avoir une explication au gouvernement fédéral?
Mais ça, c'est le fédéral ou au Québec là?
Je pense que les deux sont faites ensemble. C'est un job en commun. Mais
il a échoué parce qu'il n'a pas passé le test de français, dis-tu.
Exactement.
Bon, OK. Là, j'ai quelqu'un qui me dit et qui m'écrit au 98985 qui dit bonjour Bernard, je suis conseiller pédagogique en francisation. En plus des cours de francisation qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants, il y a aussi possibilité, lorsqu'ils ont déjà un travail, d'avoir des cours de francisation en entreprise. Non seulement sont-ils payés avec leur salaire pour apprendre la langue, mais l'entreprise reçoit aussi une subvention pour la formation de cet employé. Ça, pour moi, c'est probablement le système idéal. C'est-à-dire, tu permets à la personne de travailler, puis tu lui permets de se franciser pendant les heures de travail, quitte à ce que l'entreprise reçoive une aide gouvernementale. Ça, d'après moi, c'est le meilleur compromis, Lise.
Ça se fait pas assez. Puis là, on parle des grosses boîtes qui ont des services de ressources humaines. Souvent, les immigrants ou les réfugiés qui arrivent ici, ils vont aller travailler
dans des PME, dans
un petit boui-boui d'un beau-frère qu'ils connaissaient en Inde.
Puis ils n'ont pas les moyens de payer quelqu'un dans le fond, pas à travailler, mais à apprendre une nouvelle langue. Ils n'ont pas les moyens de...
C'est probablement des entreprises qui font tout pour survivre. Ouais. Donc, c'est probablement qu'il y a plusieurs solutions. Mais de dire systématiquement, si vous ne parlez pas du tout le français, vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce qu'on ferait? Steve Jobs. Parlons de Steve Jobs, celui qui a créé Apple.
Ouais.
Pas exactement un tata.
On s'entend.
On s'entend. Son père était un immigrant.
Oui.
Turc.
Il parlait pas anglais, c'est ça que tu veux dire?
Alors, quand lui est arrivé aux États-Unis, il parlait, mais je veux dire, chez nous, il y avait un Steve Jobs ou un Bill Gates ou quelqu'un, une sommité, par exemple, en médecine, un chirurgien que tout le monde respecte. Puis nous autres, on y dirait non parce que tu parles pas français cette semaine.
Oui, mais moi, je suis pas d'accord, Lise, pour qu'on laisse tomber tout le critère linguistique. Là.
Non, pas au complet.
Parce que là, il y a toujours bien
de
limites.
Non, il y aurait des critères. Ça serait pas pour n'importe qui, mais ça éviterait en tout cas que des Français se fassent dire vous avez échoué le test de français.
Oui, oui.
T'avoueras que c'est savoureux.
Oui, c'est savoureux, puis c'est surtout... moi, je comprends pas. J'ai vu cette histoire-là passer comme toi, là.
Ouais.
Et puis, je lis les journaux tout le temps. Et puis, je me souviens pas d'avoir vu une bonne explication de ce qui s'est passé cas à ce monsieur-là. Là. Mais honnêtement, toute la question de l'immigration, puis on va se laisser là-dessus, Lise, toute la question de l'immigration, c'est le foutoir. Moi, là, je lis 4-5 journaux par jour et j'arrive pas à m'y retrouver. Je sais plus si c'est Québec ou Ottawa qui est le problème. Je pense les deux. Je sais pas ce qui marche pas dans ce maudit système-là, mais tout est tout croche. Et puis, à un moment donné, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Ça n'a aucun bon sens. C'est inefficace, c'est bureaucratisé. Tu as des gens qui sont ici chez nous, qui attendent depuis des années leurs papiers. Ils sont intégrés, ils parlent français, ils ont un emploi.
Ils ont des enfants qui vont à l'école française.
Et puis, ils sont pas capables d'avoir les papiers, la résidence permanente. Ah, c'est le bordel total.
Ben, regarde, j'ai un peu une réponse à ta question, si tu me permets. En date du 10 avril, il y a à peine 7 % des dossiers du Québec qui avaient reçu une approbation en principe, contre 50 % pour ceux dans le reste du Canada.
On parle d'une approbation par le gouvernement fédéral, là, par le ministère de l'Immigration du fédéral.
Oui. Mais là, faut que je pense ça pareil, hein. Ils n'ont pas le choix.
Oui. Non, mais la résidence permanente, c'est le fédéral qui la donne.
Oui.
Pas compliqué.
C'est ça.
Mais tu sais, le Québec donne le certificat de sélection. Après ça, c'est la résidence permanente. Puis là, je vous parle pas du passeport. Mais honnêtement, il y a vraiment du ménage à faire. Moi, j'ai hâte d'abord de comprendre. J'ai hâte qu'un ministre ou une ministre sorte pour m'expliquer c'est quoi le problème. Puis qu'elle me dise, on va travailler pour le régler. Qu'il soit à Ottawa, qu'il soit à Québec, là, mais je pense que ça va prendre du bon sens et de la bonne volonté des deux bords. Mais il va falloir régler ça à un moment donné parce qu'on risque d'échapper, comme tu dis, des très beaux talents.
D'échapper la langue française. Tu sais, on ne veut pas échapper ni un ni l'autre.
Bonne conclusion. On ne veut pas échapper ni un ni l'autre. Merci, Lise. À demain.
À demain.
Après la pause, on parle tomates. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire, effectivement, Bernard, nos tomates ne goûtent plus ce qu'elles goûtaient auparavant. Il y en a un qui est en train de se faire un sandwich aux tomates, d'ailleurs, puis il me dit qu'il est moins bon il est moins bon que prévu à cause de moi. Ben, il y a peut-être un petit peu d'espoir après la pause.